seconde table ronde.
Bonjour, bienvenue à tous. Si vous nous rejoignez, nous sommes dans cette émission spéciale Le Colloque éthique, la nécessaire révolution de l'enseignement, de la pédagogie et de la formation, avec une table ronde enrichie, une table ronde numéro 2 justement sur la formation enjeu central. On est ravis d'accueillir Muriel Touati. Bonjour Muriel.
Bonjour.
Vous êtes partner education, recherche et innovation chez OnePoint.
C'est cela même.
On précise ce que fait OnePoint.
Bien sûr, cabinet technologie, cabinet conseil, écosystème vertueux qui accompagne secteur public et secteur privé, de bout en bout, pour nos clients et nos partenaires, sur toutes les sphères et les strates des nouvelles technologies et du numérique.
Voilà, qui crée à l'intérieur d'un institut des formations.
Absolument.
Et recherches. On va en parler dans un instant.
Merci.
À votre côté, Jean-Christophe David, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le fondateur de Body Minute.
Oui.
Alors on se dit, mais tiens, alors pour ceux qui ne connaissent pas Body Minute, on présente d'un mot.
Ce sont des instituts de beauté démocratiques, sans rendez-vous, avec abonnement.
Voilà. Alors on se dit, mais que venez-vous faire dans cette table ronde sur la formation? Eh bien, c'est que vous formez vous-même des centaines, voire des milliers de jeunes femmes qui vont travailler ensuite dans les instituts.
Complètement. Dans l'artisanat, le travail manuel nécessite une formation de bon niveau pour pouvoir accueillir et avoir une qualité de fabrication des services moyenne à longueur d'année.
Voilà, et vous allez nous dire qu'effectivement, l'Institut pallie peut-être certaines carences sur une formation initiale. Claude Tempé, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes vice-président de freelance.com.
Tout à fait.
Freelance.com, je crois que c'est coté en bourse.
Exactement.
Oui.
Exactement.
Et comme son nom l'indique, vous travaillez avec les freelances?
Exactement. Donc on travaille sur le marché du freelancing. C'est un marché en pleine explosion puisqu'il y a une espèce de révolution du rapport au travail qui est en train de se mettre en place avec beaucoup de gens qui veulent plus de liberté. Et le freelancing répond bien à ça. Et c'est des gens qui, pour le coup, ne vivent que de leurs valeurs et donc ont besoin d'être systématiquement à la pointe de tous les domaines dans lesquels ils sont et donc de se former nécessairement pour ça. Et il se trouve qu'en parallèle, je suis également professeur de mathématiques et de physique au collège.
Voilà, nouvelle donc, aventure depuis le début de l'année. Rapprochez-vous un petit peu du micro,
exactement.
On vous entend bien. Donc vous disiez, oui, depuis cette année, vous avez décidé, parce que c'était pas assez finalement d'être vice-président de freelance.com, d'être, vous étiez peut-être déjà professeur?
Non, je l'étais pas, mais effectivement, donc freelance, on fait 1 milliard de chiffre d'affaires, donc c'est une boîte qui est effectivement une certaine taille, on est coté, comme vous le rappeliez, on est leader de notre marché, mais j'avais depuis très longtemps envie de m'essayer au fait d'être professeur dans l'environnement classique, hein, donc pour l'éducation nationale, par vocation, par envie et pour mieux comprendre de l'intérieur la façon dont ça fonctionne, parce qu'on en pense beaucoup de choses, on en dit beaucoup de choses sans toujours savoir réellement comment ça se passe, et de le vivre de l'intérieur, ça permet de lever certains doutes et d'avoir plus de certitude sur ce qu'il faudrait peut-être améliorer à droite ou à gauche.
Ah bah parfait, vous serez notre œil de l'intérieur, effectivement. Et puisqu'on parle de milliards, eh bien on est ravis d'accueillir Loïc Lefloc-Prigent, président de la branche industrie éthique, après un passé industriel évidemment confirmé. Loïc, bonjour.
Bonjour.
Et vous venez nous parler de la formation des jeunes, une clé pour sortir de l'impasse industrielle. Alors on en a parlé tout à l'heure avec Sophie de Menton, la formation, c'est vrai que c'est essentiel, et on a l'impression qu'il y a, on a parlé de connexion effectivement entre cette formation qu'on a pendant des années, 20 ans de formation, et puis après 40 ans de travail, et on a l'impression que la jonction ne se fait pas toujours bien, que les entreprises réclament finalement des talents, des profils qui ne sont pas forcément ceux qui sortent de la machine.
Alors, je dirais que moi, je suis revenu au travail de fond, c'est-à-dire que je dirige 8 PMI industriels en mécanique métallurgie, et je vois un secteur extrêmement important, effectivement français et devant rester français parce qu'il y a souvent du matériel lourd et l'idée qu'on va aller le produire à l'extérieur, en particulier en Chine, est absurde pour à la fois des frais de transport et du poids des produits. Et il n'y a pas aujourd'hui de formation adaptée à un certain nombre de ces sociétés. Et il y a une difficulté évidente à recruter.
Bien sûr.
C'est-à-dire qu'on est là devant un truc complètement fou, où on finit par dire, écoutez, il y a des Roumains qui sont susceptibles de venir. Alors bon, on a une fille roumaine. En Tunisie, il y a des gens qui parlent français. C'est plus facile qu'avec les Roumains pour qui il faut un traducteur. Donc on va essayer de les amener d'abord. Alors quels sont ces individus rares que nous recherchons et qui n'existent pas ou qui n'existent plus? Et quand les anciens partent, ils n'ont même pas la possibilité de faire la formation des nouveaux, parce que les nouveaux ne sont pas là, ou les nouveaux arrivent et puis repartent. Et ce sont des métiers absolument passionnants, surtout aujourd'hui où on fait beaucoup d'automatisation, numérisation, et on part dans les nouvelles technologies, et il y a une capacité d'avoir un travail passionnant avec des machines qui ne sont plus française depuis bien longtemps, puisqu'on a quitté le secteur de la machine-outil et tout ce qui a suivi oui. est parti maintenant en Asie, au Japon d'abord, et en Chine aujourd'hui, et donc ces métiers sont complètement orphelins de la CD française. Alors on a, par exemple, vous avez des fonderies. Alors les fonderies ont pris un coup sur le nez, c'est clair, au moment où la France a dit « je quitte le véhicule thermique ». Parce qu'il y avait beaucoup de fonderies qui étaient liées à l'activité fabrique de moteurs thermiques. Mais il reste quand même des forges et des fonderies utiles pour la société française, pour l'industrie française, pour aujourd'hui, on dit qu'il faudrait faire un peu plus d'armement, ben oui, ce serait pas mal, mais effectivement, il faut appuyer sur le bouton, comment on peut faire plus d'armement qu'on fait, et c'est pour ça que tous ces métiers-là sont complètement orphelins. Et
des savoir-faire, c'est-à-dire c'est quoi, c'est en termes de formation, en termes
de formation,
d'intérêt aussi.
Il n'y a pas aujourd'hui, si jamais vous êtes dans la fonderie, vous n'avez pas la possibilité de dire tiens, je vais aller prendre un fondeur de l'école X, Y, Z qui fait dans la fonderie, ça n'existe pas. Vous avez des gens qui sont rentrés après un bac pro ou après un BTS, qui sont rentrés, on leur a dit « est-ce que la fonderie, ça vous intéresse ?» Ils ont dit non, et puis on a fini par les y mettre. Alors ils sont maîtres-régleurs ou au-delà, et ils n'ont pas fait d'études de fonderie, parce que ça n'existe pas. Mais c'est vrai de la chaudronnerie. À la chaudronnerie, bon, il y a la chaudronnerie pour le nucléaire. Alors là, il y a eu une école de la chaudronnerie qui s'est faite autour du nucléaire quand on a poussé le nucléaire. Puis à un moment, on a dit on va arrêter. Pof, tout ça a disparu. Et maintenant, un chaudronnier P3, c'était un chaudronnier qui peut faire de la soudure nucléaire, c'est 7 ans de formation.
Donc c'est alors à une époque où on parle beaucoup de réindustrialisation, Loïc Lefocq-Prigent, ça veut dire que il faudrait réintroduire ces métiers parce que c'est vrai que les jeunes on leur dit c'est ce qu'on appelle la voie de garage. Donc
on n'arrive pas à reconstituer grossièrement aujourd'hui, on a 10% du PIB industriel, les grands pays sont à 20% et nous étions à 20% il y a quelques années. Donc on a perdu 10%. Donc, si jamais nous voulons redevenir un grand pays, en particulier, par exemple, puisqu'aujourd'hui on dit on va faire la guerre, etc. Très bien. Si on veut appuyer sur le bouton et on va faire la guerre et on va avoir des matériels, des obus, des radars, etc. Bon, il faut que les gens soient là. Les gens sont pas là aujourd'hui. Ils sont pas là. Ils n'existent pas. Alors, ça tient à beaucoup de choses. Mais, d'une part, à l'image de l'industrie lourde ou de l'industrie mécanique, métallurgique, traitement des métaux, etc., vis-à-vis de public enfantin. Mais là, on a fait tout pour qu'il ait le sentiment qu'il n'existe qu'une chose, c'est les smartphones, les applications et le fait que avec ça, on devient milliardaire.
Les services d'une manière générale, c'est-à-dire plutôt travailler services, dans un bureau,
Or, ce n'est pas vrai. C'est-à-dire que si jamais nous n'avons pas de chaudronniers, si nous n'avons pas de fonderies, si nous n'avons pas de métallurgistes, effectivement, notre pays est ultra dépendant et n'est pas souverain. Et, il est au service des pays adjacents. Et alors, qu'est-ce qui nous manque ? Il nous manque cet appétit, cette envie, et cette envie n'a pas été créée. Et on a envie, nous, industriels, de dire, tiens, on aimerait bien que les jeunes viennent voir notre industrie, qui est une industrie 4.0, de fait, mais 4.0 avec de l'intelligence humaine qui regarde ce qui se passe. Non, c'est extrêmement intéressant. Et quand les enfants sortent de là, ils sont contents. Mais faites venir une classe de l'éducation nationale dans une entreprise. C'est un effort de plusieurs années.
Alors justement,
c'est impossible. Bon. Alors, c'est la première chose, c'est il faut acclimater les jeunes à avoir envie. De la même façon, nous, dans notre jeunesse, on avait envie de faire des tas de trucs avec des boulons, des vis, etc. On inventait des instruments. Là, visiblement, tout ceci aujourd'hui est fait par l'ordinateur. Très bien, mais encore faut-il redonner le goût de ce qui se fait réellement à partir des trucs qu'on regarde. C'est-à-dire ça, il y a un premier sujet qui est celui-là.
On va revenir au deuxième sujet.
Il y a un deuxième sujet.
Attendez, juste une seconde, parce qu'il y a des réactions autour de la table. Je crois qu'il y a Muriel qui veut intervenir.
Elle a envie d'intervenir, oui. Non, mais je suis totalement alignée. Pour revenir sur ce que fait la maison OnePoint. Alors, cher Loïc, OnePoint est un cabinet conseil technologie, donc qui rend du service. Et il est vrai qu'aujourd'hui, la France est devenue une société de service. Il n'y a plus d'industrialisation. Donc comment générer de la croissance, effectivement? C'est pour ça que nous,
impossible,
chez OnePoint, on a pris le parti d'intégrer une dimension qui me semble absolument majeure, qui est d'abord la formation, parce que nous sommes aussi une entreprise apprenante, mais également la notion de recherche et de développement. En travaillant justement avec l'écosystème académique, dans le cadre de l'Institut OnePoint, que nous avons initié il y a 2 ans maintenant, avec l'écosystème académique pour travailler justement un modèle valeur, d'abord pour un cabinet conseil que nous le sommes, mais aussi pour enrichir en tant qu'ETI que nous sommes aussi, eh bien le pays, pour sa croissance et sa que je mettrai entre parenthèses, industrialisation, autour de la recherche et du développement. Pour cela, il faut susciter le désir. C'est même pas le goût, c'est le désir. C'est la vocation. Et vous avez tout à fait raison de dire que c'est pas une fois qu'on va chercher les talents quand ils sortent de l'enseignement supérieur de la recherche. Et effectivement, on sait très bien, pénurie de talents, on est obligé de les attirer. Mmh. Donc les maisons comme les nôtres, les cabinets conseils font tout pour pouvoir attirer. Dieu sait que chez OnePoint, nous faisons ça en proposant des univers, des lieux exceptionnels, des formations tout au long de leur vie, de leur parcours professionnel. Et on pourra y revenir dans le cadre de l'école OnePoint. Mais l'éducation nationale, effectivement, a un rôle majeur à jouer. Moi, je suis partisane de dire que le secteur public, c'est-à-dire l'administration publique, les ministères, doivent travailler de concert et de façon décomplexée avec les entreprises parce qu'il est là le terrain de jeu. Comment je sors de la classe les enfants à l'éducation nationale ou comment je sors de la classe les étudiants pour les mettre sur des faits concrets, sur des cas d'usage pour qu'ils soient déjà sur le tremplin de l'existence, oui, de la vie. Et à l'éducation nationale, justement, on a initié chez OnePoint une merveilleuse initiative que j'ai baptisée Chemin d'avenir. Alors, nous sommes dans le numérique et la technologie. Rêvons ou osons ensemble nos métiers dans le numérique. Pourquoi ? Pour surtout attirer les petites et les petits, niveau 5e, parce qu'après c'est trop tard, il faut cultiver les cerveaux, pardonnez-moi l'expression, quand ils sont encore maléables.
Absolument, oui, c'est d'accord.
Les amener, les sortir de la classe, les amener dans le terrain de jeu qui est OnePoint, un merveilleux écosystème vertueux, je le disais tout à l'heure, en plus d'une beauté sans inégalée. Et les faire travailler sur du ludique. Parce que l'apprentissage, l'éducation, qui est le ciment de notre, oui, civilisation, il ne faut pas qu'il soit dans une forme d'automatisme ou de mimétisme sans conscience. Il faut qu'il soit intégré en pleine conscience. Et ça ne peut passer que par des émotions.
D'accord.
Et donc par du ludique. Et c'est pour ça qu'on a créé cette fresque de l'équilibre harmonieux.
Moi, si jamais dans mes installations, je peux faire visiter des jeunes, je ne demande que ça. Simplement, il ne faut pas que j'ai l'impression de demander de faire des cathédrales pendant des années ou des mois pour arriver à ce que 40 gamins passent une demi-journée chez moi. C'est pas possible. Okay. Il faut qu'il y ait un système qui soit plus automatique que ça. Mais c'est indispensable. Il faut
s'intéresser
dès le plus jeune. Il faut que les jeunes, je suis tout à fait d'accord avec vous, madame, les jeunes de cet âge-là doivent comprendre qu'il y a un avenir possible là et qu'on peut avoir envie d'eux.
Alors, réaction autour de la table, Jean-Christophe David.
Je pense que les jeunes aujourd'hui sont différents et ont d'autres aspirations qu'il y a 15, 20 ou 30 ans. Je dois vous donner un rapide exemple. En coiffure, il y a 30 ans, j'arrive de ce monde-là, les jeunes travaillaient tous 45 heures, gagnaient très bien leur vie, parce qu'il y avait des clientes qui demandaient des rendez-vous sur 45 heures par semaine. Et il y avait de l'envie et tout fonctionnait très bien. Aujourd'hui, avec les 35 heures, quand on travaille de ses deux mains, c'est pas rentable. Ça n'est plus rentable. Donc, pour ça que les jeunes, déjà, ont beaucoup de mal à se projeter dans les professions artisanales. Or, la chaudronnerie, moi, je n'ai que des femmes et des filles dans mon réseau. La moyenne d'âge, c'est 21 ans. Donc, je forme 1200 jeunes qui ont déjà le diplôme, un CAP, où elles ne savent pas faire grand-chose. Parce que je pense que l'éducation nationale pour les jeunes, je pense qu'elle a baissé les bras.
Vieille machine.
Non, parce que c'est souvent. L'État.
Je vais vous montrer.
L'État paye tout. L'État, si une jeune trouve un job en alternance, l'État va donner beaucoup d'argent à l'entreprise qui la prend en alternance. Mais ensuite, l'État va payer aussi les cours de cette jeune fille et personne ne sait si cette jeune fille ou ce garçon dans la chaudronnerie peut travailler et aime ce qu'il fait.
C'est ça le sujet capital, alors, c'est aimer ce qu'on fait, mais il faut présenter le bébé pour savoir si on a envie.
Aimer ce qu'on fait, vous aurez du mal avec les jeunes. Alors
ce n'est pas vrai.
Non, c'est à vous à les intéresser.
Oui, mais il faut qu'ils viennent.
Si personne ne les intéresse, si tout le monde dit autour de la table, il n'y a qu'à Faucon, ça ne marchera jamais, parce que ça, ils sont très sensibles à ça. Ils veulent des gens qui fassent vraiment le chemin avec eux. Et s'il n'y a pas ces gens qui font le chemin avec les jeunes, les Yaka Faucon, ils n'en veulent pas, ils connaissent ça par cœur, ils ont vu leurs parents, les marginaux, les connaissent. C'est banni, si vous voulez.
Jean-Christophe David, vous voyez des gens de 21 ans, vous nous avez dit, classe d'âge auprès, beaucoup de jeunes filles, et on a notre prof, Claude Tempel, vous avez repris le chemin de l'école pour être professeur. Tiens, parce qu'on parle de la génération, Jean-Christophe disait que voilà, ça a changé, est-ce que ça a tellement changé?
Bah non, en fait, c'est un des problèmes, c'est que c'est probablement un des plus vieux métiers du monde. On a un historique colossal, puisqu'on enseigne depuis des années, et qu'en fait, on se rend compte que l'éducation nationale, les modes d'enseignement, et même ce qu'on enseigne, ne changent pas et ne s'adaptent pas au monde qui nous entoure. Et typiquement, pour rebondir sur ce que disait Loïc, je pense qu'il y a un vrai problème en France, et sûrement dans beaucoup d'autres pays, c'est qu'il devrait y avoir un travail beaucoup plus en symbiose entre l'économie et l'éducation. Et il devrait y avoir des plans quinquennaux, voire décennaux, permettant d'anticiper les types de profils dont on aura besoin dans 5 ou 10 ans, en fonction des demandes des entreprises, et que l'éducation nationale se cale pour former ces gens-là en amont, et pour qu'il y ait une adéquation qui soit maximum, de sorte que il n'y ait plus de chômage, évidemment, de sorte qu'on forme, on éduque, on instruit sur les métiers de demain, sur les métiers en tension, et la chaudronnerie, si ça l'était il y a 20 ans, tant mieux, si ça l'était plus il y a 10, tant pis, et si ça l'est aujourd'hui, eh bien reformons des gens sur le sujet. Donc il faudrait vraiment qu'il y ait une adéquation entre l'éducation nationale et ses plans de formation, et les besoins de l'économie française, voire européenne, pour former les gens dont les entreprises ont besoin demain. Et donc, il y aurait un vrai accompagnement. Et on ne le voit pas, ou peu. Et en tout cas, pour être de l'intérieur, c'est vrai que j'étais très surpris, moi, de voir que j'enseigne aujourd'hui avec du matériel pédagogique qui est le même que quand moi, on m'enseignait, avec des méthodes, donc qui ont 40 ans.
Et par exemple, c'est vrai qu'on est moins équipé que, par exemple, dans n'importe quelle entreprise. Alors,
évidemment, on est beaucoup moins équipé, mais un truc... un des points qui m'a beaucoup choqué, c'est par exemple quand vous êtes dans une entreprise, il y a plein de process qui se répètent, on les industrialise, on les automatise, on les améliore et on les optimise en continu pour être de plus en plus efficace.
L'amélioration continue, ça s'appelle.
Exactement. Et quand vous êtes un nouveau prof, vous débarquez et c'est à vous de réinventer de A à Z le cours que vous allez donner aux enfants. C'est-à-dire qu'on ne capitalise pas depuis 70 ans qu'on enseigne aux enfants les maths, la physique, le français ou quoi que ce soit. Et des milliers de profs par an qui le font. Il n'y a aucune capitalisation qui n'est faite.
Il n'y a pas un cours standard.
Non, il n'y a rien.
Donc vous arrivez en cinquième pour le programme
de
maths.
Vous piochez à droite à gauche de ce qui peut exister et vous reformez votre propre cours et vous enseignez à votre sauce cette matière. Alors si vous êtes un bon prof, vous avez un peu d'instinct, ça se passe bien. Si vous débutez ou si vous sortez d'école, ce qui est aussi une grande bizarrerie, sortir d'école pour devenir professeur sans être passé par la case vraie vie entre guillemets est quelque chose d'un peu étonnant, mais c'est un autre débat. Mais il n'y a pas de capitalisation. Or c'est sûrement c'est sûrement les métiers sur lesquels on aurait pu le plus capitaliser depuis toutes ces années.
Parce qu'on a beaucoup d'archives.
Mais évidemment. Et donc on pourrait avoir des cours tellement parfaits qui abordent des sujets tellement plus vastes qu'on pourrait être beaucoup plus efficace dans l'apprentissage, c'est-à-dire aller plus vite pour nos enfants. Plutôt que Pythagore en cinquième, Thalès en troisième, on pourrait aller beaucoup plus vite avec des cours beaucoup mieux structurés.
Je sens que vous travaillez sur quelque chose là, en ce moment.
Réfléchis beaucoup, évidemment. Évidemment, je suis en train d'écrire des trucs sur le sujet. Et puis, ce serait donc plus efficace pour les profs, plus efficace pour les élèves, plus efficace pour la liaison avec les entreprises. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de choses à changer, beaucoup. Mais pour une simple raison, on fait exactement la même chose qu'en 45.
Et la société a évolué, pas nous.
Exactement. Ce
qui est clair pour dans nos métiers, c'est que nous avons besoin de gamins qui ont compris la logique et qui ont compris la rigueur. Et ça, les mathématiques donnent cette formation à la logique et à la rigueur.
Tout à fait.
Et que le point capital, c'est donner l'envie de travailler, c'est-à-dire de dire aux gamins. Vous allez vous épanouir dans le travail, alors vous allez peut-être, il y a des tas de choses sur lesquelles vous allez, mais vous allez épanouir dans le travail, ça va être bien. Et ça va être chouette, et il y a des endroits qui peuvent visiter, où les gens sont là, sont heureux, rigolent, c'est très important de donner envie. Mais il faut d'abord la logique et la rigueur. Alors on s'aperçoit qu'effectivement, le nombre de fautes d'orthographe est devenu absolument épouvantable, donc là, on a perdu la rigueur. Alors, je sais pas comment on s'est débrouillé. On dit, voilà, c'est la méthode globale, c'est machin, etc. Peu importe. Mais vous n'allez pas révolutionner le monde de l'industrie avec des gosses qui ne savent pas lire et écrire. C'est pas possible.
Non, mais
c'est pas possible.
Alors, oui,
et ça, c'est la logique.
Vive.
Logique et rigueur. Et derrière, il y a l'envie.
Non, mais vous avez tout à fait raison. Il y a l'envie, il y a le désir. Je pense que l'entreprise aujourd'hui a tout son rôle à jouer dans sa proximité avec l'éducation nationale. J'écoutais attentivement ce que vous disiez. C'est quand même hallucinant qu'il n'y a aucune remise en question.
Il faut nous accueillir, c'est ça le problème.
Mais ça devrait faire partie des programmes.
Mais qu'il n'y a aucune remise en question. Et moi, la question que j'ai envie de vous poser, pardonnez-moi Fabrice, c'est avec l'avènement justement de l'IA, de ChatGPT, de l'IA générative, toutes les outils d'adaptive learning, etc. Est-ce que justement, dans une dynamique de prospective et d'anticipation, l'éducation nationale ne prend pas aussi des initiatives? Parce que si c'est pour gérer le carpe diem du présent, on ne fera rien. Si on ne prépare pas nos jeunes à être les protagonistes de ce que sera la garantie de la croissance de notre pays, on ne fait rien. C'est quand même l'éducation nationale qui a ce rôle majeur. Donc la question que je pose, et c'est pour cela, et je me permets de la poser d'autant plus, que c'est pour cela que chez OnePoint, quand on a créé ce jeu ludique autour de l'intelligence artificielle...
C'est fantastique.
C'est la fresque de l'équilibre harmonieux. J'y tiens dur comme fer à cet équilibre harmonieux, parce que c'est la complémentarité justement entre les jeunes filles et les jeunes hommes. Dans cette dynamique d'égalité, nous sommes à la semaine du 8 mars, donc ça tombe bien qu'on en parle. L'idée est de dire il y a une pénurie de talents incroyable dans notre pays. On a besoin sur des métiers en tension, justement, et des métiers qui s'inscrivent dans l'ère du temps autour des nouvelles technologies et du numérique de formation. Je répète, l'école OnePoint le fait et s'y attelle au quotidien. On a développé plus de 400 formations sur étagère initiale et continue. D'abord, pour nos collaborateurs, parce qu'il y a une dynamique citoyenne chez OnePoint. On a cette responsabilité, oserais-je dire, éthique, et c'est le cas de le dire, eh bien, d'acculturer nos collaborateurs jusque pendant leur parcours professionnel chez
OnePoint. Donc l'école Mural Toiti, c'était d'abord pour OnePoint, et ensuite, ça s'ouvre.
Et après, nous l'avons ouvert, effectivement, à nos clients et à nos partenaires, avec des formations éminemment disruptives, et pour revenir à la fresque de l'équilibre harmonieux.
Joyeuse, des vocations joyeuses,
absolument.
C'est ça.
Absolument.
C'est la joie.
Aussi, Charles Olic,
apprendre, ça doit être joyeux.
Et je vais vous dire même mieux, et je reviendrai sur la fresque de l'équilibre harmonieux, mais au-delà de ça, travailler l'humain. la dimension humaine. C'est pour ça qu'on a souhaité créer une formation que j'ai baptisée les humanités, avec une école d'ingénieurs d'ailleurs, qui travaille d'abord, que signifient les humanités? Qu'est-ce que c'est faire société? Comment je travaille l'intelligence collective et collaborative? Comment j'accepte l'autre dans ce qu'il est différent de moi? Comment je travaille l'écoute active? Et comment je peux donc, du jeu JE, basculer dans le jeu JEU? Eh bien, de l'entreprise. Et je finirai en parlant, en revenant sur la fresque de l'équilibre harmonieux, qui est un jeu ludique, qui vient déconstruire les biais cognitifs, culturels et éducationnels des petites. Je vous rappelle, niveau 5e, 60 collégiennes, 60 collégiens à cet événement Chemin d'avenir, pour les amener vers ce qu'elles doivent devenir, finalement, oser être, prendre confiance en elles, et puis peut-être, c'est pas une obligation, se diriger vers des métiers où on ne voit pas de femmes aujourd'hui, ou presque pas. Je rappelle que 52% de notre pays, enfin, population féminine, ce serait dommage, dans les métiers des technologies et du numérique, de s'en priver. Si l'éducation nationale ne sait pas le faire, eh bien, OnePoint sait le faire.
Jean, il faut remplacer les questions. Je vais revenir sur les métiers manuels, parce que moi, je suis un manuel. J'ai travaillé toute ma vie avec que mes mains dans la journée. Et bon, chaudronnier, on travaille avec ses mains et on ne peut pas faire plus que ce qu'on peut faire. Donc, moi, je pense que les grandes idées accusées... l'éducation nationale, les uns ou les autres. Moi, on m'a toujours dit, il n'y a pas de mauvaise école, il n'y a que des mauvais élèves. Moi, je pense que c'est un problème de salaire. C'est, les métiers manuels proposaient de meilleurs salaires aux jeunes en leur permettant, parce qu'ils sont jeunes et qu'ils ont de l'énergie. Moi, par exemple, à mon époque, je travaillais 45 heures par semaine et je sortais tous les soirs jusqu'à 3 heures du matin et je n'étais pas fatigué. Donc, les 35 heures sur les jeunes qui épousent une profession manuelle, qui voudraient éventuellement, qui en ont le désir, ou peut-être les capacités, ou peut-être l'amour. Allons-y avec les sentiments, ils sont maints et multiples. Tant qu'il n'y a pas de salaire, ils viendront pas. Ça les intéresse pas. Ils vont meubler un peu leur temps comme ça, et puis dès qu'ils peuvent partir, il n'y a pas d'attache, il n'y a pas de projet, ils ne peuvent pas se projeter. Donc si on les laissait travailler plus, pour gagner plus, je sais que c'est je viens de dire une grossièreté, mais c'est basique et c'est ce qui se passe dans tous les autres pays.
Mais parce qu'ils ne peuvent pas travailler davantage
Suisse,
aujourd'hui.
Non. Vous allez en Suisse allemande, vous allez en Allemagne, il y a énormément de jeunes épousent ces professions parce que d'abord ils sont entre copains, vis-à-vis des garçons, mais ils gagnent très bien leur vie. Ils ont des beaux costumes, ils ont des belles bagnoles, ils se payent un truc. À 20, 25 ans, on a envie de quoi? On a envie de s'installer, on a envie de se payer un frigidaire, un machin, un truc plein. On a envie de faire des choses, d'exister. À 35 heures, les entreprises ne peuvent pas les payer. Ils ne sont pas encore qualifiés, ils n'ont pas vraiment d'utilité, ils sont une charge. Alors l'État redonne de l'argent pour qu'on les prenne, beaucoup d'argent, parce qu'ils voient bien que les entreprises ne les voulaient pas. Ils sont très difficiles à gérer, il faut vraiment les encadrer avec un vrai encadrement, parce que les Yaka Faucons, ils voient ça sur TikTok toute la journée, ils n'en ont rien à fiche. Ce qu'ils veulent, c'est des gens sur le terrain avec eux. Donc l'État finance, ensuite il nous prend des impôts, il étrangle les sociétés, et tout ça ne fonctionnera pas. Nous ne sommes plus dans un cercle vertueux, en tout cas concernant les métiers manuel, où tu ne peux pas faire plus que ce que tu peux faire avec tes mains.
Qui, on le rappelle, avantage, sont non délocalisables en plus, hein, pour faire.
Et qui sont les plus délocalisables. Aujourd'hui,
pas se faire coiffer les cheveux
en Chine.
Partie,
hein. Et qui faisait partie de l'ascenseur social qu'il y avait avant, où tu savais que tu pouvais démarrer avec un métier manuel, tu allais te défoncer, tu avais plus d'énergie, t'en voulais plus, tu étais meilleur, tu t'affinais au fur et à mesure, parce que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est de là dont on sort cet adage, et donc tu pouvais t'élever, parce qu'ensuite tu pouvais devenir manager. Ensuite, moi, c'est ce qui se passe, moi j'ai une formation, on forme les filles à bien travailler avec leurs mains d'abord, en premier, qu'elles organisent leur travail manuel, c'est très important, plutôt que qu'il y ait les mains qui se perdent partout. Ensuite, si elles sont bien, on a des formations manager très poussées, très précises, de compréhension, et puis ensuite des formations franchisées, parce que forcément elles veulent s'installer et gagner de l'argent. Parce que c'est l'argent, quand même, le moteur dans le travail.
Formation.
On l'oublie beaucoup en France, je trouve.
Alors,
bien
sûr.
C'est dommage.
Je suis d'accord, probablement, sur les métiers qui sont les vôtres. Il y a le sujet de l'argent, mais bon, ça, de toute façon, pour vivre, il faut gagner sa vie dans tous les sens du terme, hein, même métaphorique, j'allais presque dire. Mais je pense qu'il y a un autre sujet, quand même. Il y a la notion de sens. Et nous, on le constate chez OnePoint, de plus en plus de talents que nous recrutons, que ce soit à Paris ou dans les régions, ont besoin aussi de sens. Et on constate que ce sens-là, parfois, prédomine même sur le salaire. Ils ont besoin de se retrouver dans un univers où...
Peut-être avec des salaires un petit peu plus élevés, déjà.
Oui. Ça, c'est une évidence. Ouais. Bien sûr.
Ça, c'est, que le les travaux sens,
c'est pour ça que...
Entre 3002 et 3005, on va choisir le sens.
Non, non, mais... certes, je le disais tout à l'heure, ce n'est pas, on ne fait pas de travail manuel, de travaux manuels, on est dans la nouvelle technologie. Évidemment. Mais, quand même... La notion de sens
et tout ça
revient au chapitre...
Vous avez 100% raison, il faut donner du sens aux choses et c'est comme ça que les gens se projettent. Mais il y a deux choses importantes dans tout ce qu'on vient de dire. Je pense qu'effectivement, l'éducation, ça doit passer par l'envie et idéalement le plaisir, mais en tout cas au moins l'envie. Les enfants ont... Et moi, c'est la première chose que je leur dis, vous y arrivez si vous avez un peu envie. Et un des moyens qu'ils aient envie, c'est qu'ils comprennent pourquoi. Exactement. Et comprendre pourquoi, c'est les insérer dans le schéma global, qu'ils comprennent ce que ça peut leur apporter, où est-ce qu'ils peuvent aller. Et que l'éducation nationale et l'éducation se connectent avec le monde de l'entreprise pour présenter, ça devrait être dans les programmes d'éducation. Les différents métiers, et qu'ils aillent faire des visites en entreprise, dans des chaudronneries, dans des industries, dans du service, pour comprendre, pour rendre les choses plus concrètes. Je fais des maths, je fais de la physique, je fais de la bio, je fais du français, je fais de l'anglais, je fais du SES, mais pourquoi ? Ah, mais je comprends, parce que si je vais travailler là, voilà où ça me sert.
Parce que vous êtes dans l'incarnation, vous les sortez de la classe et vous les mettez sur le terrain de jeu de l'entreprise, sur des faits concrets.
Il faut que ce soit moins abstrait, plus concret, et donc il faut encore une fois, je pense, vraiment lier l'éducation nationale et le monde réel qui l'entoure pour qu'il y ait une vraie synergie entre les deux. Ça passe par évidemment des plans, comme on le disait tout à l'heure, des plans
quinquennaux
ou décennaux s'il faut pour mutualiser les deux, et ensuite impliquer les enfants pour leur faire prendre conscience de ce que c'est que la vraie vie dès le plus jeune âge.
Le stage de troisième, c'est une bonne idée?
Bah, c'est une bonne idée, c'est une bonne idée bien sûr, parce que c'est une première volonté d'aller vers ça. C'est mais ça pourrait être donc je pense qu'il faut le garder, est-ce qu'il faut le changer, est-ce qu'il faut l'adapter, est-ce qu'il faut le plus long, il faut voir, mais en tout cas c'est une bonne chose de fait, enfin une bonne chose à faire. Mais il pourrait y avoir une fois par mois, une demi-journée d'une classe qui va visiter une entreprise, une industrie pour appréhender ce que c'est. Et les parents de ces enfants ont tous moyen de dans tous les domaines et dans tous les milieux de faire connaître leur métier. On peut aussi faire venir les entreprises à l'école. Et moi, je fais ça. Je demande aux enfants d'élèves ce que font leurs parents. Et je fais venir une fois par semaine un parent expliquer son métier aux autres enfants.
C'est très important.
Alors, je vous confirme, je vais participer à la journée des métiers pour expliquer mon...
C'est des choses qui... Oui, ça ne devrait pas être mon initiative. C'est
oui,
ça le truc.
C'est
que ça devrait être structuré, industrialisé, processé, pour être beaucoup plus global et donc beaucoup plus performant en termes de pénétration des cerveaux, des enfants, des adultes.
Vous prêchez une convaincue, et quand je parlais de l'exemple de OnePoint tout à l'heure, je dis souvent...
La seule chose qu'on arrive à faire, c'est considérer que nos salariés ont femmes et enfants, et qui doivent, que femmes et enfants doivent comprendre ce qui est en train de se passer, le sens de ce qui est le travail du papa, parce que, en principe, effectivement, je le regrette, j'ai très peu de femmes sur les machines. J'en ai, sur 240, je dois en avoir 10, quoi. Hein, vous voyez, donc, c'est pour ça que je parle du monsieur et de la dame avec enfants. Et on fait des visites, des sites. Et là, les enfants sont... Ah, c'est là que tu travailles, papa. Il y a une fierté. Ça existait avant.
Ça dépend comment les gens parlent de leur métier aussi, hein, quand ils rentrent à la maison. Oui, s'ils disent, oh là là, la journée...
C'est un vrai point, parce que la fierté dont parle Loïc, c'est très important. C'est-à-dire qu'en France, on a eu tendance, depuis 30 ans quand même, à vouloir devenir un pays de service et à dénigrer un peu les métiers manuels. Or, il n'y a aucune raison. Et il faut redonner de l'appétence à toutes les typologies de métiers, et que chaque enfant ait une certaine fierté à voir son père ou sa mère présenter ce qu'il fait, ou emmener la classe dans l'entreprise, quel que soit le sujet, et expliquer justement par le concret qu'un gars qui bosse dans une usine pour produire des moteurs pour Renault, eh ben, ça a énormément d'utilité, c'est technique, c'est valorisant, et qu'il n'y a pas que le gars qui bosse dans une banque à la Défense qui a un beau métier, bien au contraire.
Il y a des entreprises qui font des moteurs, par exemple, des moteurs électriques, et qui sont quasiment de discipline pharmaceutique. C'est-à-dire qu'ils ont tout est fait pour que le métal arrive, dans qu'il ne bouge pas pendant un certain temps, qu'on étudie l'hygrométrie, la température. C'est de plus en plus, les instruments de mesure sont de plus en plus importants, et c'est passionnant.
Mais c'est extraordinaire.
C'est complètement passionnant, parce qu'il y a une évolution. Il faut qu'ils comprennent que, certes, il y a cette évolution avec le smartphone et maintenant ChatGPT. Oui, d'accord, mais toute la société, et toute la société industrielle en particulier, est irriguée par ça. Et c'est des matériels qui sont... Mais c'est incroyable aujourd'hui qu'il n'y ait pas cette volonté de l'éducation nationale de rentrer chez nous.
Mais il y a pas cette volonté. Vous ne pouvez pas sortir une baguette magique. Il faut créer un univers, un contexte pour que les jeunes puissent s'y projeter. Que ce soit au niveau implication personnelle, intérêt, peut-être passion. Mais il faut qu'il y ait une clé, une carotte à la fin de la passion. Vous n'allez pas vous passionner pour quelque chose si ça ne vous rapporte rien.
Je comprends votre propos,
monsieur. Et quand
on
travaille manuellement à 35 heures, les salaires ont baissé.
J'ai compris. Il faut bien le vivre aussi, il faut bien le voir.
Et il y a eu, comme c'est la population qui a pris sur elle,
vous avez pris
forcément, il n'y a plus cette joie et cette fierté de faire du bon travail et de bien gagner sa vie avec ce bon travail, comme il y avait avant.
Permettez-moi
de vous
dire...
Parce que l'industrie les voit comme des numéros.
Mais permettez-moi de vous dire, ce n'est pas vrai.
À 35 heures, on les change facilement. Voilà ce qu'ils
sont dit. Pas du tout, justement. C'est ça qui est de la réalité. C'est ça
qui a été... Alors, il y a eu un problème de compréhension.
Qui a été, en 97, la disruption négative. C'est-à-dire qu'on a dit, on va diviser le travail et vous ferez le même métier que n'importe qui, un clou chasse l'autre.
Exactement.
Non, c'est pas ça qui s'est passé. Bon, alors, par ailleurs, donc vous êtes en train de décrire une situation où on ne s'occupe que de l'argent. Effectivement, moi je travaille en zone frontalière et mes compétiteurs sont de l'autre côté de la frontière, dépensent le même argent que moi, mais le salarié a 1000 euros dans la poche tous les mois de plus s'il est en Suisse que s'il est chez moi.
Moi j'ai des instituts en Suisse aussi.
Donc c'est une réalité, c'est-à-dire qu'il y a eu... paupérisation du pays par rapport à nos voisins, et ceci s'est fait graduellement, et les 35 heures en sont une des causes essentielles. Ok, on a cette description, c'est bien.
La cause.
Il faut maintenant se confronter à la réalité. Si jamais nous n'augmentons pas la production d'un facteur 2 dans les 10 ans qui viennent, nous sommes foutus en tant que pays. C'est-à-dire que nous avons paupérisé l'éducation nationale, c'est vrai, les salaires nationaux sont minables, etc. C'est vrai, tout ça c'est vrai. Simplement, comment on en sort? Je dis, on en sort en donnant du sens, comme l'a dit madame, et en donnant l'envie. C'est la solution, on ne va pas changer... On ne va pas diminuer les charges. Comme ça, on voit la difficulté aujourd'hui qu'a M. le maire de trouver 10 milliards d'économies dans le pays. Moi, je les trouve tout de suite. Hein, je supprime 2 ou 3 instituts qui ne servent à rien, et puis c'est fini, qui reproduisent la réalité d'avant-hier, et puis on les trouve. Je sais faire. Si jamais il me demande, je sais les trouver. Mais il les trouve ailleurs. Il les trouve ailleurs parce qu'il est terrorisé par l'environnement général qui ne pas envie de bouger.
Mais il n'a qu'à libérer le taux horaire dans l'artisanat, et vous allez voir que tout le monde va très bien s'organiser rapidement.
Comment leur y arriver? En redonnant l'envie à nos jeunes. En redonnant l'envie.
Ben, voilà. Faites-leur gagner de l'argent, laissez-les travailler.
Alors l'argent,
la
chance,
il n'y a pas que l'argent.
Il n'y a pas que l'argent.
Pour l'instant,
il y a aussi l'argent.
L'argent est important, évidemment. Mais il n'y a pas que l'argent.
Mais il y a une paupérisation du pays, c'est clair.
Mais complètement. Moi, je reviens sur cette notion de sens, d'engagement, d'appartenance, de fierté. Et j'aimerais revenir parce que ce que vous disiez tout à l'heure m'a interpellée. Je dis souvent, et je ne fais pas le pitch pour OnePoint, mais on est vraiment un modèle exemplaire sociétal. Vraiment. Tout ce qu'on a évoqué ici dans ce lien et ce liant entre l'éducation nationale et ce que nous sommes, entre la recherche, l'éducation et l'entreprise que nous sommes... J'aimerais juste dire quelque chose sur l'appartenance justement et la fierté des enfants par rapport à leurs parents. Nous organisons chaque Noël dans nos magnifiques lieux, 4000 mètres carrés à côté du Trocadéro, qui sont une cour de récréation, donc les enfants s'y sentent très bien, et bien une journée dédiée aux parents et aux enfants. Et il faut voir la fierté. Alors certes, ils ne gagnent pas probablement les talents, ce que gagnent, hélas, dans les métiers du manuel. Ok, mais ce n'est pas que ça. C'est le fait de susciter cette envie, cet élan vital, ce sens, cet engagement, ce sentiment d'appartenance qui est tellement déficient dans notre pays en ce moment, tellement déficient, et il ne s'agit pas d'être ici pessimiste, mais on voit bien qu'il y a une dégénérescence en termes de sens, de désirabilité pour notre pays. Regardez la fuite des cerveaux qui vont ailleurs, pour des raisons aussi économiques, mais ça c'est encore un autre sujet. Il faut redonner l'envie, ressusciter un désir de France. Et il faut travailler tous ensemble collectivement dans nos différences et dans nos ressemblances. Eh bien, à tout prix, cette croissance en France, cette industrialisation pour créer des emplois et pour donner à tout à chacun dans nos différences la possibilité de vivre heureux et serein dans notre pays.
Bah, je vous sens en campagne, hein, Muriel Joachi, là, c'est militant. Mais c'est vrai que ce n'est pas pareil, peut-être, quand on est à 1200, 1500 euros qu'à 3200 ou 3500.
Mais c'est la vie aussi.
Il faut d'abord, dans la pyramide de Maslow, remplir le frigo.
Évidemment,
mettre un
mais la vie est faite ainsi.
C'est vrai. Les jeunes, justement, que vous côtoyez, comment ils sont voilà, vous êtes au collège, vous êtes où enfin, on peut le dire, ou dans
le
Île-de-France.
Je suis à Neuilly. Sûrement pas un échantillon représentatif de la population française du point de vue de l'éducation, mais on voit quand même c'est des jeunes, donc ils sont encore assez frais dans leur tête, donc ça permet quand même de se faire une vraie idée.
Voilà, ils sont parce qu'on parle beaucoup aussi, c'est vrai qu'on parle de formation des jeunes, ils y pensent, ça les préoccupe dès le plus jeune âge, parce qu'on sent une certaine anxiété parfois chez certains.
Alors je pense que justement ils y pensent pas tant que ça et ils y pensent pas beaucoup, et on peut les comprendre. On se rappelle tous quand on avait 12 ou 13 ans et on avait d'autres sujets dans la tête que le cours de maths ou le cours de français. Et je pense qu'un des éléments clés, et donc ils n'ont pas tous la même maturité à apprendre et la même compréhension de la façon dont ça va changer leur vie potentiellement d'avoir bien appris ou pas bien appris. À des âges où c'est très difficile de le leur reprocher puisqu'ils sont par définition pas très matures. Et comme c'est pas très concret, ça rend les choses très abstraites. Mmh. Et moi je suis aussi convaincu qu'il y a beaucoup d'élèves dans beaucoup de classes qui font des études très moyennes, voire mauvaises, alors qu'ils ont l'intelligence. Ils ont le cerveau, mais ils n'ont pas la maturité au moment où il faudrait qu'il l'ait quand on leur enseigne
Absolument.
Les choses. Et il faudrait pouvoir mettre en place des écoles de la deuxième chance pour des enfants qui sortent un peu trop tôt du système scolaire, qui se retrouvent confrontés à une vie un peu compliquée et qui se mettent à regretter le temps où ils auraient pu apprendre, se rendre compte qu'ils ont finalement les compétences et les capacités pour, et donc leur dire je te redonne une chance, je te remets dans le circuit. Maintenant que tu as compris qu'il faut bosser pour y arriver, tu vas peut-être te mettre à bosser, à écouter ce qu'on te dit. Et le gars, comme il a vécu un peu la vraie vie et les difficultés, il va s'y remettre. Et tout d'un coup, il va faire des études excellentes. Et donc,
il y a d'ailleurs pas mal d'étudiants qui font des très bonnes études une fois qu'ils ont trouvé finalement ce qu'il est.
C'est une question, je suis totalement en face. C'est une question pour moi de synchronicité.
Mais bien sûr.
Entre la maturité psychique et psychologique.
Et c'est très compliqué.
Et son QI. Et ça, c'est très compliqué.
On demande à des élèves de 12 ans d'avoir tel niveau en cinquième, et si pour des raisons de maturité il l'a un an plus tard, il l'aurait.
Absolument.
Mais on ne lui donne pas la chance.
Mais je vous rappelle.
Et vous le repérez, juste attendez une seconde. Et vous repérez justement les gens.
Ça se repère très
sont...
facilement. C'est-à-dire qu'on repère très très bien les élèves qui ont compris ou qui sont studieux par essence, parce qu'ils ont une certaine forme de maturité et qui ont le cerveau pour y arriver, donc c'est des très bons élèves. Il y a toute une série d'élèves normaux qui jouent, qui écoutent qu'à moitié, mais qui ont à peu près les compétences et qui feront des études après correctement, et la maturité les rattrapera et ça deviendra des bons élèves. Et il y a tout un lot d'élèves qui sont, et je parle pas de ceux qui sont pas à leur place, mais je parle des autres là, qui ont une maturité qui est complètement décorrélée et qui ne comprennent pas pourquoi ils sont là ni ce qu'on leur demande de faire, et qui du coup sont de mauvais élèves alors qu'ils pourraient être de bons élèves. Et cela, c'est sur cela qu'il faut mettre le plus d'attention pour soit leur donner une chance un peu plus tard, soit pour pouvoir passer plus de temps avec eux. Et c'est en ça d'ailleurs, et je refais une aparté, qu'il faudrait vraiment faire des groupes de niveau dans les écoles.
Ouais, parce que le redoublement pour ces gens-là finalement.
Sauf si le redoublement leur permet d'avoir cette maturité une année plus tard. Mais si c'est pas le cas, il faut pas le faire. Non, mais une autre solution, au-delà de l'école de deuxième chance, c'est vraiment, et je crois qu'on est Enfin, Attal a dit qu'il le ferait, donc on verra si ça aboutit. Mais et quand vous êtes dedans, c'est une évidence des écoles, des classes de niveau. C'est-à-dire que les bons, quand vous êtes dans une classe de 40 élèves ou 35 élèves, les très bons, les 7-8 qui sont très bons s'ennuient, les mauvais n'ont pas le temps de rattraper. Donc vous pouvez pas vous occuper d'eux parce qu'il y en a trop, donc vous les perdez, chaque jour qui passe vous les perdez un peu plus, et vous vous occupez que de ceux qui sont au milieu. Donc c'est négatif. Vous auriez des classes que de très bons, vous pourriez les faire aller beaucoup plus vite, et donc avoir des gens très brillants qui vont plus vite, qui derrière font plein de métiers extrêmement complexes. Les mauvais, j'aime pas le terme, les moins bons, vous des classes beaucoup plus petites.
Vous rattrapez.
Là, exactement, vous pouvez polariser avec eux, travailler avec eux spécifiquement. Et donc là, vous les faites rattraper le train et donc redevenir, réembarquer.
Sauf que, Clotin Pey, on va vous dire, ah ben attendez, moi, mon enfant est dans la classe B, il n'est pas dans les A, moi je veux qu'il aille dans les A.
Oui, mais à un moment, il faut aussi que les parents... C'est l'éducation et les profs qui peuvent juger au mieux la façon dont ça se passe. Puis en plus, c'est évident. Hein.
Il faut s'y atteler bien avant la troisième.
Ah non, mais bien sûr,
parce
ça doit démarrer...
Parce que c'est à partir de la troisième. Et pour revenir sur ce que vous disiez sur l'école de la deuxième chance, vous savez que Edith Cresson, que j'ai la chance de très très bien connaître, a initié les écoles de la deuxième chance. Vous en avez dans toute la France.
Ouais, bah, ça c'est pas assez connu, alors je pense que c'est pas assez...
Allez, regardez l'école de la deuxième chance et vous verrez, c'est mais extraordinaire.
Ce que je veux dire, c'est
justement,
que ça doit faire partie du process
niveau,
de l'éducation nationale.
Les classes de niveau, c'est quelque chose d'intéressant parce que on a voulu en faire une mesure générale et on dit je fais une mesure générale. Ça peut pas marcher. Ça peut pas marcher exactement comme dans l'entreprise. Il faut avoir des expérimentations toujours, regarder les expérimentations et ensuite voir ce qu'il faut faire et ce qu'il faut faire en amont, c'est-à-dire quelle est la formation qu'il faut donner aux formateurs.
Oui.
Donc c'est un processus. Et on est là en train de se chamailler sur est-ce qu'il faut faire des classes de niveau ou pas des classes de niveau. Il est bien évident qu'il faut faire des classes de niveau, simplement ça se prépare. Et ça se prépare du personnel adapté et donc c'est une dynamique à l'intérieur de l'éducation nationale qu'il faut retrouver et qui n'existe pas.
Je vais aller un cran plus loin. Moi je crois même, à titre personnel, ça n'engage que moi, mais qu'il ne faut pas qu'en quatrième, les élèves aient le niveau de maths de quatrième, le niveau de français de quatrième, le niveau d'anglais de quatrième, le niveau de physique de quatrième. Il faut que par matière, il y ait des niveaux. Il faut juste qu'entre la sixième et la troisième, à la fin de la troisième, tous les élèves aient à peu près globalement acquis tel ou tel niveau. Mais si un élève en maths va très très vite et que dès ses 12 ans, donc l'équivalent de la cinquième, il a le niveau troisième, eh bien, il faut le laisser aller. À l'inverse, s'il est beaucoup plus lent en français ou en anglais et qu'il lui faut 4 ans pour acquérir tel niveau, il faut le laisser aller. Et il faut faire des classes de niveau par matière. Ce serait encore plus pertinent quand on parle de... Je vous disais tout à l'heure, l'éducation nationale,
c'est
pas changé depuis 70 ans.
Là que vous proposez,
mais
hein.
Il faut, ça fait 70 ans que ça n'a pas bougé. Mm-hmm. Donc il faut réfléchir les choses pour s'adapter. Et les outils numériques et digitaux dont on dispose aujourd'hui nous permettraient parfaitement de faire ce genre de choses.
Ouais, il faut maintenant
juste une volonté politique de changer radicalement les choses pour s'adapter aux enfants, aux maturités, à leurs évolutions.
De faire des expérimentations.
Bien sûr,
ne pas généraliser sans arrêt. Il faut faire ça. Non,
vous avez raison.
C'est pas obligé de faire ça sur toute la France.
Jean-Christophe David.
Ça va être un beau chantier quand on voit les problèmes de recrutement que rencontre elle-même l'éducation nationale.
Bien sûr.
Donc si eux-mêmes n'arrivent pas à recruter, je ne vois pas comment ils vont donner plus de services à leurs clients qui sont nos enfants.
Il y a plein de moyens de changer ça.
Donc, seul moyen, c'est de faire travailler tout le monde un petit peu plus.
Mais pas que, ça rejoint...
le million de professeurs travaillait 10% de plus, j'ai l'impression que ça a l'air de déranger les gens, tiens, si on travaillait plus... Ben avant, les gens travaillaient pas, et puis ils chassaient, ils mangeaient, et puis petit à petit, ils se sont mis à travailler. Moi, je vois pas pourquoi, quand il y a un problème en France, si on se mettait tous à travailler 10% de plus, ça ferait quoi? Ça ferait de 35 à 39 heures, puisqu'on reviendrait aux 39 heures, parce que de 39 à 35, ça fait moins 10. On dirait plus 10%. Je pense pas qu'il y aurait des morts dans la rue. Il y a quand même des pays où on travaille allègrement 50 heures par semaine, nous-mêmes. Tous les gens qui sont autour de cette table, je pense que nous travaillons déjà tous 50 heures, et je vous trouve en pleine forme. Hein.
Vous
aussi, hein. Tout le monde est en pleine forme. Alors, on oblige les pauvres gens à travailler 35 heures. Je ne comprends pas pourquoi on devrait leur apprendre plutôt à travailler 50 heures non plus.
Il faut travailler plus,
c'est-à-dire du 1er janvier.
Justement,
du 1er janvier au 31 décembre, où l'État nous demande d'arrêter nos comptes, je pense qu'on aurait plus produit. Parce que tout ce qui passe à la trappe à cause des 35 heures, ça doit enrichir tous nos concurrents. Parce qu'on nous a dit, vous allez partager le travail entre vous, les Français. C'est pas vrai. On l'a partagé avec les Européens. Et parce qu'on s'est fait piquer du chiffre d'affaires, et sinon on continuerait, et les Chinois au passage, qui se sont servis, mais beaucoup avec l'Europe, et on n'a rien partagé entre nous, parce qu'ici en France, personne ne s'est enrichi. Donc moi, en tout cas, qui suis un travailleur manuel de base, je sais une chose, c'est que quand je travaillais 40 heures derrière mon fauteuil, je faisais plus d'argent que quand je travaillais 35. Et au niveau fatigue et tout ça, c'est pareil. Hein.
Mais je suis complètement d'accord avec ce que disait Loïc. C'est-à-dire que je suis aussi convaincu que effectivement c'est compliqué d'imposer un modèle standard et unique à l'ensemble d'un pays,
voilà.
et que il faut faire des expérimentations, pas que pour tester. D'ailleurs, il faut aussi adapter des modèles aux différents contextes qui peuvent être les siens. Et je vais aller encore un cran plus loin. Je pense que l'éducation nationale devrait être 100% privée, avec un cahier des charges émis par l'État, très strict, mais comme dans une entreprise. Dans une entreprise, quand une grande entreprise, quand Total dit...
9 000 euros l'élève par an.
Exactement. Okay. L'État paye et les entreprises définissent, et avec un cahier des charges, c'est, je veux que pour ce prix, l'élève soit capable de faire ça, 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 et ça, etc. Et ensuite, chaque entreprise ou école privée formera à sa manière, avec ses process, ses méthodes pédagogiques, et on pourra extraire de tout ça le meilleur.
Je suis totalement aligné avec
du
ça.
Coup,
et mais pour les entreprises, pareil, vis-à-vis de leurs employés en travail manuel, si les chaudronniers ils pouvaient proposer des belles situations à des jeunes en disant « Attention, tu es chaudronnier, tu fais tant, mais attention, tu vas gagner tant. »
C'est pour ça.
Ben là, ils viendraient.
C'est pour ça que...
Là, on pourrait se battre avec nos concurrents.
C'est pour ça que l'entreprise a un rôle majeur à jouer en termes de responsabilité sociale et sociétale. Majeur. Et la proximité que l'entreprise doit nouer absolument avec le secteur public, notamment le ministère de l'Éducation nationale et l'enseignement supérieur et la recherche, est majeur. Il en va, j'ai presque dire, du devenir de notre pays. Et privatiser ou l'éducation nationale, à mon avis, on ne sera plus là pour le voir. Mais bon, en revanche, il faut d'ores et déjà travailler sur cela, donc anticiper, être un coup en avant et se dire, c'est maintenant ou jamais que l'entreprise doit s'atteler aussi à ce qu'elle doit faire.
Tout à fait.
C'est-à-dire faire en sorte que nos jeunes deviennent les garants de la croissance de notre pays de demain et dans tous les registres.
Alors, je vais vous
On parlait tout à l'heure de 10 milliards d'économies. Je veux dire, l'éducation nationale, c'est probablement une des pires gabegies. C'est des milliards tous les ans pour une efficacité relativement moyenne.
Médiocre.
J'osais pas le dire.
J'ai le droit de dire, mon âge me permet de dire des choses, je ne voudrais pas professeur. Vous disiez.
Mais vous confieriez, encore une fois, l'État définirait un cahier des charges extrêmement strict, avec un contrôle de ce qui se fait et de comment ça se fait, et allouerait un budget par élève aux différentes entreprises privées de l'enseignement. Je suis certain qu'au bout de 3-4 ans, on pourrait dire, c'est 9 000 euros cette année, 4 ans plus tard, c'est 8 500. Et les entreprises, elles, qui auraient processé, industrialisé la façon d'enseigner, et ce n'est pas du tout péjoratif, c'est de le faire mieux, pour moins cher, ce que font toutes les entreprises du monde. Dès qu'elles ont un petit problème, il faut qu'elles fassent, qu'elles réduisent les coûts. Et souvent, elles arrivent à réduire les coûts en faisant mieux. Et donc, on aurait une meilleure éducation pour un coût moins important pour l'État. Tout le monde serait gagnant.
Absolument, ouais. C'est ce qu'on appelle l'enseignement ou la formation personnalisée ou adaptée.
Ils font ça partout en Europe, et partout dans le monde.
Complètement.
Moi, je vois bien, j'ai des instituts à Annemasse, à Annecy et en Suisse. La même fille à qui on propose 35 heures. Alors, chez Body Minute, on fait les meilleurs salaires, on est très fort là-dessus, on donne des intéressements, on calcule les chiffres d'affaires, les pourcentages, les trucs, les machins. On paye beaucoup aussi d'heures sup, ce qui nous coûte très cher. Mais c'est notre devoir, il faut aider ces jeunes à avoir envie de travailler sans gagner d'argent. Elles n'ont plus envie. Donc la même fille, à 35 heures.
On y arrive.
Mais c'est de l'argent.
On vous a convaincu, madame. Voilà. Félicitations, on a convaincu.
Oui, mais c'est l'argent, le moteur. C'est l'argent. Donc, la même fille qui travaille à 35 heures côté français, elle est malheureuse, elle n'est pas très heureuse. La même fille à 42 heures, parce qu'en Suisse, les contrats de base sont de 42 heures. Avec le salaire suisse, elle a le sourire, elle vient en chantant. Elle est jeune, elle gagne sa vie, elle est heureuse, elle réussit.
Par l'argent, dans sa tête, aussi ce qu'elle fait.
Dans sa tête, elle se fait plaisir.
Et puis parce qu'elle aime sûrement aussi son métier.
Ça va tout seul.
Allez, je veux juste rebondir sur un des mots qu'il y a dans le sujet de la conférence, là, qui est la pédagogie, pour juste mettre un petit peu le doigt sur une autre petite ineptie du système éducatif français. On demande, pour être professeur, il faut passer des diplômes relativement élevés, un CAPES, un AGREG, etc. Pour enseigner des maths, de la physique ou n'importe quelle matière à des enfants de 5e, il n'y a absolument pas besoin d'être une star intergalactique des maths. la principale compétence nécessaire pour enseigner, c'est pas la matière, c'est la pédagogie qui va avec. Et donc, c'est assez étonnant de voir qu'on oblige des gens à avoir des niveaux très importants dans des matières, alors que, et qu'on les, en, on les forme pas du tout sur comment tenir une classe, sur les méthodes pédagogiques, sur les outils auxquels ils pourraient avoir accès, sur la façon de donner envie, de, etc. Et donc, on a des gens qui sont très compétents dans leur domaine, mais de très mauvais professeurs.
C'est tout.
Et réciproquement, on pourrait avoir de très bons professeurs. Absolument. Qui sont pas forcément des stars de leur matière. Et je vais prendre mon simple exemple. Moi, je suis pas du tout un grand mathématicien, loin s'en faut. J'ai pas fait de maths depuis...
Je suis déçu.
Non, bah oui, désolé. Depuis très 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 longtemps. Et pourtant, ça m'empêche pas, parce que justement, j'ai connu la vraie vie, que je peux faire des métaphores, des parallèles, d'expliquer les mathématiques de façon très simple à des enfants de 5e, et qu'à la fin, ils auront probablement mieux compris, parce que j'utiliserai les bons mots, plutôt que la même explication avec quelqu'un qui est un pur produit des mathématiques, qui a un très bon niveau mathématique, mais qui n'a pas le bon niveau de pédagogie.
Un grand professeur que je connais qui se trouve être prix Nobel dit qu'il y a une différence entre éduquer et enseigner. Enseigner, c'est faire la transmission du savoir et de la connaissance dans ce que je disais tout à l'heure en préambule, dans l'automatisme, une forme de mimétisme ensuite de l'apprentissage sans conscience. Éduquer passe par les humanités, passe par les émotions, passe par toutes ces compétences douces, comme on dit communément, qui font que vous allez donner envie, d'avoir envie de titiller les cinq sens.
Art skills, soft skills.
Les cinq sens des apprenants pour leur donner envie, justement, d'aller. C'est de l'éducation, c'est de la pédagogie, et c'est vers ce type d'éducation qu'on doit s'acheminer, et surtout pas un apprentissage via un enseignement qui est froid. Oui. Finalement, et qui n'a aucun, pour revenir sur le mot, aucun sens.
Et qui est donné pour la plupart par des gens qui sortent de l'école.
C'est-à-dire exactement.
On demande à des gens qui sortent de l'école de devenir professeurs. Ils n'ont jamais, entre guillemets, croisé la vraie vie, donc ils n'ont aucun ressenti de ce qui se passe dans le monde, et c'est eux qui vont enseigner à nos enfants les différentes matières.
Mais parce que dans notre pays,
et ils ont
qui est
de
France,
moins en moins envie de le faire.
Bien sûr, il faut.
Alors ça devrait être interdit.
Mais il devrait au moins passer 5 ans
rajouter...
entre l'école et l'enseignement.
Vous laissez rajouter, mais je voulais laisser cette incidente, c'est que les professeurs, en particulier de mathématiques, excusez-moi, que je connais, il y a de moins en moins qui ont envie d'être professeurs de mathématiques, donc on peut appuyer sur le bouton et rien qui vient. Et il y a énormément de professeurs qui n'ont plus envie vraiment d'enseigner et qui sont là, ils sont là par habitude.
C'est grâce à ça que j'ai été pris, hein, c'est parce qu'il en manque. Hein.
Ah oui, c'est ça, je sais.
Parce que je n'ai pas le diplôme, moi. Je n'ai pas d'agrément.
Mais au moins, il y avait une envie.
Ça change beaucoup de choses.
Et je reviens sur l'envie toujours, mais je vous laisse parler. Allez-y,
je voulais juste, parce que peut-être qu'on n'a plus le temps, mais
on a plus le temps.
Rajouter un sujet qui me semble important qu'on n'a pas abordé, c'est l'hybridation des compétences. Comment j'arrive à me désiloter des disciplines pour pouvoir aller m'acheminer vers de l'interdisciplinarité et de l'hybridation des compétences et des expertises. Parce qu'il faut savoir que en 2040, si aujourd'hui on se forme de façon indirecte 24 minutes via ces machins-là, eh bien, à horizon 2040, ce sera 2h24, et que la notion de travail sera complètement différente, puisqu'on sera multi-activité. Et que pour préparer ce qui sera l'avenir, ce qu'on ne sait pas très bien faire en France, parce qu'on n'anticipe pas et on n'est jamais en prospective, c'est maintenant qu'il faut se dire qu'on doit désiloter le système éducationnel et travailler l'hybridation des expertises et l'inter- et la multidisciplinarité.
Bon, bonne idée, mais ce sera pour une autre...
Je prends de physique et de maths.
Sera une autre table ronde. En tout cas, un grand merci à nos invités. Voilà, on a couvert bien des sujets. En tout cas, on retient
on est tombé d'accord
l'envie.
À la fin, même.
Mais bien sûr, l'envie d'avoir envie.
Absolument.
Le sens, mais aussi les sous.
C'est fantastique.
Et puis,
c'est tellement facile d'être d'accord avec moi.
La formule, on la connaît maintenant. Jean-Christophe David nous l'a donné. Il faut travailler 45 heures et sortir jusqu'à 3 heures du matin.
Exactement.
Merci, un grand merci à nos invités,
et gagner de l'argent,
Coty,
et faire la
Claude Timpé, Jean-Christophe David et Loïc Lefocq-Prigent. Dans un instant, la conclusion avec Sophie de Menton et Jean-Marie Rouard. À tout de suite.
Colloque éthique en partenariat avec Web Radio Édition.